Inter, le 18-20.
Ils sont aujourd'hui en France près de 16 millions et plus de 90% d'entre eux se disent heureux. Bienvenue ce soir aux retraités avec une question à la fois simple et complexe. Quelles sont les clés justement d'une retraite heureuse ? Comment réussir ce changement de vie ? Faut-il le préparer très en amont, tant côté budget que côté projet ? Quels sont les écueils à éviter ? L'imaginaire de la retraite est souvent, vous le savez, une nouvelle vie riche de projets personnels, de loisirs et de liberté, à condition évidemment d'en avoir les moyens physiques et financiers, mais ça peut être autre chose aussi. Alors que vous soyez un retraité heureux ou pas, seul ou très entouré, actif ou oisif, eh bien venez partager avec nous ce soir votre expérience, vos conseils. Trois moyens de nous joindre par téléphone au 01 45 24 7000, internet franceinter.fr et sur Twitter, hashtag Telson.
Michaël Thébault, le téléphone sonne.
Et tout de suite au standard de France Inter, c'est Jean-Claude qui ouvre ce téléphone sonne. Bonsoir Jean-Claude, vous nous appelez d'Épinay-sur-Seine, nous vous écoutons.
Bonsoir France Inter, oui, ben, très rapidement. Alors, je dirais qu'il y a deux, c'est comme la face d'une pièce, il y en a deux faces. Je suis à la fois très heureux d'être en retraite, ça fait 10 ans. Donc de faire ce qu'on veut, de ne plus avoir la pression du travail, etc. Mais comme disait votre collègue, ce qui pêche, c'est au niveau financier. C'est-à-dire que ça fait, j'ai cotisé 43 ans et je me retrouve avec même pas 1 200 € par mois. C'est-à-dire qu'actuellement, je n'ai plus d'appartement, je suis hébergé. Si j'avais pas un ami, je serais comme beaucoup de gens, SDF. Donc ça, c'est terrible parce que bon, c'est tapé les réformes Juppé, etc. Et ce que prévoit le nouveau président me fait un peu peur. Donc c'est dommage parce que être à la retraite, c'est fabuleux, quoi. Faire ce qu'on veut. Enfin, c'est, des fois, je dis en rigolant, ça serait bien de commencer par là. Donc c'est bien, mais financièrement, c'est la catastrophe.
Mais est-ce que vous aviez pensé à préparer votre retraite, Jean-Claude?
Alors,
notamment financièrement.
À l'époque, si vous voulez, moi, j'ai fini ma carrière à 1 500 € par mois. Donc, mettre de l'argent de côté, c'est un peu difficile, la famille, enfin bref, je vais pas vous raconter ma vie, on y sera encore demain matin, donc c'est difficile, mais j'ai cotisé, c'est-à-dire que j'ai toutes mes cotisations. Alors en plus, moi j'ai une carrière un peu bizarroïde, c'est que j'ai fait à la fois du privé et du public, mais dans les deux cas, j'ai pas assez de cotisations, donc le total fait que je vous dis, je suis à peine 1 200 € par mois.
Merci de ce témoignage, Jean-Claude, et de nombreux auditeurs sont sur la même tonalité. Pour vous répondre, trois invités ce soir, Serge Guérin, sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement, auteur entre autres avec Pierre-Henri Tavoyot de La guerre des générations aura-t-elle lieu ? Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir également Hervé Sauzet, directeur de l'Institut français des seniors et organisateur du Salon des seniors.
Bonsoir.
Et bonsoir Carole Renucci, directrice des rédactions du magazine Notre Temps.
Bonsoir.
Qui veut répondre à Jean-Claude ? Serge Guérin ?
Allez, Jean-Claude, il parle de quelque chose qui est absolument réel, c'est-à-dire que c'est le syndrome, je dirais, dernier salaire, première pension. Et pour énormément de personnes, il y a une chute de revenus. Alors, pour les gens, disons, qui ont eu des revenus modestes comme Jean-Claude, c'est à peu près 20%. Pour les gens qui ont eu des revenus plus élevés, ça peut être 50, 60, 70%. Donc c'est vrai que si on n'a pas pu, ou si on n'y a pas pensé, ou si on n'a pas été en capacité de le prévoir, eh bien, ça peut être des moments extrêmement rudes. Donc c'est vrai qu'une des raisons, on dit trop souvent « Ah, les retraités sont des gens privilégiés, ah, les retraités ont beaucoup d'argent ». Voilà, il faut rappeler que la pension moyenne en France, c'est à peu près 1 350 €, c'est 1 050 € pour une femme, c'est à peu près 1 600 € pour un homme. Donc voilà, donc ce sont des sommes qui sont modestes, qui sont convenables pour un ensemble de personnes, mais qui, dans certains cas, peuvent être notoirement insuffisantes. Donc ça fait partie des difficultés de certaines vies, où il faut inventer une vie un petit peu différente, mais tout est possible si on n'a pas trop de contraintes, mais s'il y a des problématiques pour aider par exemple ses enfants, ses petits-enfants, si on a ses parents, des éléments comme ça, évidemment ça devient extrêmement difficile.
Carole Renucci.
Oui, parfois c'est l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les enfants qui vont venir en aide aux parents et notamment aux retraités comme Jean-Pierre qu'on vient d'entendre. Il y a aussi beaucoup de femmes qui ne bénéficient que de 800 € par mois, veuves bien souvent. Donc je tiens absolument à ne pas les oublier celles-ci parce qu'elles font aussi partie de celles qui nourrissent notre nombreux courrier.
Hervé Sauzet, vous êtes l'organisateur du Salon des seniors. Là, c'était fin mai à Paris. Vous envoyez ces seniors qui arrivent justement en disant « Bah écoutez, moi avec 800 € par mois, je fais quoi ?»
Oui, on voit bien sûr de tout type de seigneurs, parce que c'est le grand rendez-vous qui réunit tous les gens de seigneurs, tous les types de seigneurs. C'est vrai que les revenus sont plus faibles, forcément, parce que la retraite est par définition une partie simplement du salaire antérieur, ce qu'on appelle le taux de remplacement, qui est de l'ordre de 80%. Pour les futurs retraités que nous serons, ça sera, le 80% va devenir 50%, donc ça va s'aggraver. Mais quand même, pour donner un petit peu de baume à nos auditeurs, donner un peu de baume au cœur, faut rappeler que quand on arrive à la retraite, on a un peu moins de dépenses. Les grandes dépenses sont passées, les emprunts sont remboursés, les enfants sont partis avec les dépenses que ça pouvait supposer.
Et qu'il y a... Sauf quand on les aide, parce qu'enfants au chômage ou autre.
Absolument, et on aide souvent, c'est ce qu'on appelle la génération pivot, qui aide à la fois ses enfants qui peuvent être au chômage ou divorcés, et ses parents qui sont encore en vie et qu'on est content d'aider, mais ça coûte relativement cher.
Carole Renucci.
Alors, je voudrais quand même dire qu'il y a aussi des retraites heureuses, c'est-à-dire que...
Mais il y en a même beaucoup.
Il y en a beaucoup, hein. Il est vrai que le salaire, en tout cas la pension et son niveau sont déterminants, mais je dirais que les retraités bricolent aussi, et quand je dis bricolent, c'est au sens positif. Il y a des petits boulots, par exemple, et puis ils ont développé des savoir-faire, ils se sont par exemple remis au jardinage, remis au bricolage, donc ils composent aussi avec une moindre rémunération.
Serge Guérin.
Si je voulais résumer, je dirais que la retraite, c'est plus de temps et moins d'argent. Du coup, j'ai du temps pour moi et parfois, je l'utilise aussi pour le jardinage. 18% des fruits et légumes échappent au marché. C'est-à-dire que je les fabrique moi-même, je les fais pousser et puis je les mange, je les déguste, je les échange avec d'autres, ainsi de suite. C'est vrai que le temps de la retraite est aussi un temps souvent, pas pour tout le monde et pas selon les capacités, mais de faire des choses par soi-même, aider les autres, être un petit peu aussi dans le troc. On réinvente aussi un peu une société plus pauvre, mais plus frugale, et d'une certaine manière aussi plus...
En tout cas avec plus d'échanges.
Plus de choses, voilà. Et en fin de compte, on invente ou on réinvente du lien social. Si je fais ma cuisine plutôt que je vais l'acheter, si je fais la cuisine pour mes enfants plutôt que je leur paye, d'abord c'est moins cher, mais en plus, ça me crée une autre image, et puis ça crée un lien, ça crée une rencontre, ça crée aussi un sentiment d'utilité qui est complètement différent de celui de juste être le payeur. Donc quand je peux pas payer, je suis aussi un utilisateur et j'ai en fin de compte un rôle social un peu nouveau.
Hervé Sauzet.
Oui, je crois qu'il faut rappeler dans cette journée de la solidarité que les retraités sont généreux. Le Conseil d'analyse économique auprès de Matignon a chiffré que les grands-parents transfèrent 30 milliards d'euros par an auprès des autres générations plus jeunes. Donc, pour les aider à acheter un premier appartement, à faire des fins de mois difficiles, etc. Donc, oui, bien sûr, il y a de la pauvreté. Il y a 10% de pauvres parmi les retraités. C'est moitié moins que les jeunes, mais c'est quand même 10%. Pour ceux qui sont concernés, c'est évidemment très douloureux. Mais pour ceux qui, comme le disait Carole, qui restent un peu plus aisés financièrement ou qui trouvent les moyens de dépenser moins, ils ont comme premier réflexe le plus souvent d'être généreux. C'est aussi les premiers donateurs en France.
J'ai sous les yeux une enquête passionnante faite pour l'Institut français des seniors, l'IFS, les Français face à la retraite. Avec cette question, de quoi avez-vous peur concernant votre retraite? Numéro 1, c'est de voir notre santé physique se dégrader, 61%. En 2, les difficultés financières, 49%. Troisième, diminuer intellectuellement, 41% quand même. Et ne plus être utile à la société arrive en quatrième position avec 26%. Ne plus être utile à la société. Carole Renucci.
Alors ça, c'est un vrai sujet, un sujet qui se pose dès le passage à la retraite. En fait, 2 ans avant, les personnes qui sont de futurs retraités se posent plus ou moins consciemment cette question-là. Alors certains préparent ce passage à la retraite, d'autres disent le préparer et ne le prépare pas vraiment, mais en tout cas c'est une vraie question parce que nous avons une durée de vie beaucoup plus longue aujourd'hui et préparer, se positionner pour 30 ans en citoyen, en acteur de diverses activités, on va dire ça comme ça, ça pose un vrai sujet auquel finalement notre société n'est pas vraiment préparée.
Précisément sur ce point, je vous soumets ce que nous dit Anne-Marie à Lille. J'appréhendais tellement la retraite comme un saut dans le vide que 10 ans avant, je m'y suis préparé. Aujourd'hui, je suis dans 3 associations et un club de sport et je ne vois pas les jours passer. Donc, ça se prépare.
Alors,
concrètement, Carole
Anne-Marie s'y est préparée, mais je dirais qu'elle fait un petit peu figure d'exception. Ou alors, elle se range dans le camp des personnes, effectivement, qui ont développé une activité de bénévolat, de don de soi, ou parfois même une passion, et qui, d'une certaine façon, se sont déjà, effectivement, préparées à ce temps où elles vont avoir plus de temps disponible pour elles et pour les leurs. Donc, on est là dans quelque chose d'un petit peu différent. différent. Mais ce qui est sûr, c'est que des personnes de 58, 60, 62 ans qui se projettent aujourd'hui dans les années de retraite se disent oui, comme Jean-Pierre, ça va être un temps formidable, je vais avoir le temps de faire plein de choses. Mais ça s'accompagne aussi d'une certaine angoisse, celle de la perte d'un statut social, celle de qui je suis, que veux-je pour moi-même. Voilà, ce sont toutes ces questions qui sont des questions d'autant plus importantes qu'elles se posent, je le redis, pour parfois plusieurs décennies.
Mais c'est pas évident de se les poser justement suffisamment en amont, c'est pas évident.
Alors c'est pas évident parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui est plutôt tabou. Aujourd'hui, on a démarré par ça d'ailleurs, hein, par une question très matérielle, mais les questions, je dirais, liées au psychisme, au positionnement social, ne sont pas particulièrement évoquées dans notre société.
Serge Guérin.
Germaine Lacor, qui tenait le même rôle que Carole Renucci il y a des années, c'était en 1977, dans le même Notre Temps, disait déjà dans un éditorial, la retraite, ce n'est pas être en retrait. Il y a une vision d'abord, même battre en retraite, le terme même est extrêmement négatif. Souvent d'ailleurs, pour les signifier, on parle des inactifs. Dans notre société, celui qui est valorisé, c'est celui qui est actif. Tous les inactifs sont donc pas bien. Or, les inactifs en question sont souvent extrêmement actifs. Sans eux, le tissu social, le tissu associatif s'écroule. 32% des maires de nos communes sont des retraités, et ainsi de suite. Donc ce sont des gens qui, au contraire, ont un rôle absolument majeur aujourd'hui dans la société française. Et d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il y a un peu deux situations. Il y a ceux qui, en arrivant à la retraite, perdent du statut social. Par exemple, des messieurs, souvent, plutôt des hommes que des femmes, qui avaient un titre, directeur, quelque chose comme ça, et du jour au lendemain, il n'y a plus de carte de visite. Et pour ces personnes-là, souvent, c'est assez douloureux.
C'est dur, ouais.
Ah oui, c'est très très dur s'ils ne l'ont pas préparé, s'ils n'ont pas réfléchi auparavant, s'ils ont tout centré leur vie sur leur réussite sociale. Puis il y a d'autres personnes qui, en fin de compte, le moment de la retraite est un moment où ils se révèlent, où enfin ils peuvent faire, par exemple, ils ont une passion. Et puis, je me souviens d'un monsieur comme ça qui était prof de peinture, qui me disait, mais moi j'ai rêvé d'être peintre, mes parents m'ont dit, fais comptable, c'est plus sûr. Et le jour de ses 60 ans, il prend sa retraite et le lendemain, il est déjà en train de prendre des cours de peinture. Et des années plus tard, il devient le prof de peinture. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont une passion, ils ont quelque chose qui les porte, ou bien simplement, ils sont en effet dans le bénévolat, dans le don, et ainsi de suite, dans le lien avec les
autres. On peut se révéler ou se réinventer.
Absolument, ouais. Ça peut être une après-midi de la vie, la retraite. C'est quand même 30 ans, c'est un temps social qui n'existait pas auparavant. Et ce temps-là, c'est un temps de liberté, comme le disait très bien Jean-Pierre au début. Alors, il y a les problématiques économiques, mais au-delà de ça, c'est d'avoir un temps où on peut penser à soi et se dire qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce dont j'ai envie et par rapport aux autres. Et donc, c'est d'abord et très souvent un temps de liberté, mais tout le monde n'est pas capable d'appréhender de la même manière la liberté.
On repart au standard. Dominique nous appelle de Saint-Martin. Bonsoir Dominique, soyez le bienvenu.
Bonsoir,
très content
de votre émission, très sympa. Donc
merci.
Moi je téléphone parce que je suis un jeune retraité.
Vous avez quel âge retraité. Allez, c'est pas indécent, vous avez quel âge?
65 ans et 4 mois.
Jeune.
Oui, parce que là, ouais, c'est pour ça que je suis un peu déçu. J'ai été magasinier à Radio France quand j'étais jeune, et puis je me suis bien ancré dans la culture. Je suis devenu infirmier de bloc, infirmier scolaire maintenant, à Saint-Martin. Et ça fait 16 ans que j'étais à Saint-Martin, et ça me gêne énormément parce que j'ai l'âge limite. On n'a plus le droit près de travailler. On m'a débarqué le 26 avril. Il se trouve que je tiens tellement à mon métier que je vois des enfants qui jusqu'au mois de juin n'auront pas d'infirmier scolaire. On sait ce que ça fait. Je veux dire, on est vraiment. Je pense que ça s'est démarqué le métier d'infirmier scolaire. Et je suis déçu, et malgré tout, et même avoir donné des conseils, avoir fêté les retraites des départs des gens, des autres, des collègues, moi je suis un peu perdu. J'arrive pas, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés.
Vous vouliez continuer de travailler et ça a été totalement impossible, c'est ça?
C'est totalement impossible. On me dit voilà, vous êtes fin 51, vous avez 4 mois de plus, donc moi on me débarque 65 ans et 4 mois, et puis c'est fini. Et je veux dire, c'est un coup pour la société, parce que nous, on évite les SMUR, hein, quand on est infirmier scolaire, on prend une décision, on évite que des camions SMUR à déplacement de pompiers, c'est 1000 euros. Hein. Donc si on a travaillé sur mon salaire en se disant on va économiser son salaire, on a fait une grosse gaffe.
Et au-delà de l'aspect financier, Dominique, l'idée de vous investir dans le bénévolat, dans des associations, c'est quelque chose auquel vous pensez ou pas du tout?
C'est le problème, c'est que je me suis investi pendant toute ma carrière dans le bénévolat en plus d'infirmier. Et maintenant, je m'y retrouve pas. Je sais pas, j'arrive pas à penser à moi. C'est peut-être, c'est pas pour me faire des fleurs, mais j'ai pas pensé assez à moi. Et maintenant, je sais plus comment faire. Ouais. Effectivement, j'ai des passions, peinture, théâtre, je fais du théâtre, mais tout ça, c'est pas plus que ça.
Merci, c'est dur ce témoignage. Merci Dominique. Comment vous le recevez, Carole Renucci?
C'est en fait ce que dit cet auditeur, donc je n'ai pas entendu le prénom.
Dominique.
Dominique. C'est, je dirais, un petit peu le point de sensibilité de notre société, c'est-à-dire, et de ce moment du passage à la retraite. C'est-à-dire que pendant 30 ans, 40 ans, on n'a pas vraiment pensé à soi. On a pensé à son travail, on a pensé à son gagne-pain, on a pensé à sa famille. Mais il est vrai que faire ses choix et se poser en se disant qu'est-ce que je veux être et non pas qu'est-ce que je veux faire, ce qui est différent. Cette question-là, on ne l'a jamais vraiment formulée. Et c'est pour ça que je dis et je le répète, on ne pose pas suffisamment le sujet du passage à la retraite comme un vrai sujet dont toute la société doit s'emparer. Parce que ce monsieur, j'ai envie de dire ce jeune homme, parce que dans la voix, on sent une vraie fraîcheur, une vraie envie, une vraie déception de devoir décrocher de cet univers qui est un univers tel qu'il le décrit, de générosité, d'ouverture à l'autre, de contact. Je trouve que c'est dommage on n'ait pas plus de modèles, on n'envoie pas plus de messages disant qu'on peut continuer à être bien inséré dans la société, à être en générosité à 65 comme à 70 ans. Alors dans les faits, Serge Guérin le disait très bien, et dans les chiffres, les bénévoles sont souvent des seniors.
Et de plus en plus.
Et de plus en plus, mais je crois qu'il faut redonner et faire ce qu'on fait là ce soir, c'est-à-dire de dire très clairement qu'ils ont la patate, ils ont la pêche, ils ont envie de l'exprimer, ils ont une vraie connaissance de la vie, donc vraiment, ouvrons-leur les portes. Je crois que vraiment, il faut que notre société s'empare de ce message et ne parle pas uniquement de retraités au moment de la perte d'autonomie. Je dis juste le chiffre, les retraités en France, c'est 17 millions. Donc, surtout dans un pays où on n'aime pas la ségrégation, on n'aime pas la discrimination, etc. Souvenons-nous que les retraités sont multiples et divers, qu'ils peuvent s'entraider, on le voit, les jeunes retraités viennent aider leurs propres parents. Donc on voit bien tous les enjeux et toutes les combinaisons qu'on peut imaginer. Je crois qu'on a vraiment ce devoir, nous tous, de soutenir ce mécano qu'il faut mettre en place et continuer à mettre en place.
D'un point de vue concret, là je me tourne vers vous, Hervé Sauzet, directeur de l'Institut français des seniors, on propose des solutions concrètes, comment on les accompagne.
La retraite est une étape de vie, est aussi une rupture de vie avec la perte de statut social dont on vient de parler. Pour ça, pour s'y préparer un peu plus, c'est quand même le cas de 7 Français sur 10 qui s'y préparent. Il y a quelques structures qui sont disponibles, qui sont par exemple des stages de préparation à la retraite qui vont durer de 1 à 3 jours, dans lesquels on va passer en revue différents sujets financiers, mais aussi sa santé, pour se préparer à des choses qui peuvent arriver. Et puis enfin, construction d'un projet de vie. Et là, c'est consiste tout simplement à s'arrêter, à se dire... qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'être? Ce que dit Carole Renucci, je suis tout à fait d'accord. C'est pas simplement faire. Le sujet, c'est pas de remplir la journée. Le sujet, c'est de passer les 25 ans que je vais avoir devant moi à la retraite comme une troisième mi-temps de la vie dans lequel je vais vraiment jouer la balle au centre de la raquette en fonction de ce qui est vraiment essentiel pour moi. Et coup de chance, quand j'arrive à ces âges-là, l'expérience de la vie m'a appris ce qui était bon pour moi et pas bon pour moi. Et donc, c'est par exemple ces stages qui existent, qui sont organisés par des caisses de retraite, auprès de qui on peut s'adresser. C'est quasi gratuit. Ou par quelques entreprises privées également qui le font, permettent de faire un point comme ça. Et puis on peut faire cet exercice-là tout seul aussi, mais le secret, c'est effectivement d'une retraite réussie, c'est de s'y préparer. Et puis il faut dire aussi à Dominique que ce moment-là difficile qui nous exprime très bien...
C'est peut-être transitoire.
...de passage, mais ça ne va pas durer longtemps. C'est-à-dire il est connu par beaucoup de retraités, il dure entre 6 mois et 2 ans à peu près. Mais après, une fois qu'on est passé sur la rive de la retraite complètement, c'est-à-dire qu'on a organisé une nouvelle vie...
2 ans, pardon de vous couper, mais 2 ans ça peut être très long et ça peut être suffisamment long pour sérieusement déprimer. Hein.
Tout à fait.
Serge Guérin.
Oui, moi j'ai fait pas mal de stages de préparation de retraite et c'est vrai qu'il faut dire que, attention, c'est normal d'avoir un petit coup de mou. Quoi. Parce que il faut retrouver ses bases. On se lève le matin et on n'a plus d'horaire. Alors il y a des gens du coup qui passent leur journée devant la télévision par exemple parce qu'ils savent pas quoi faire. Pourquoi je me lèverais à 8h ou à 7h ou à 6h puisqu'après tout si je me lève à 9h ou à 10h ça va rien changer. Donc c'est aussi s'accorder un petit peu de temps en effet juste pour réfléchir à soi, c'est quoi mes enjeux, peut-être aussi se faire plaisir un petit peu et puis se laisser un petit peu le temps de souffler quoi. Donc c'est vrai que on est dans un monde assez bizarre. D'ailleurs d'un côté c'est incroyable l'exemple de Dominique puisque d'un côté on nous dit il faut travailler plus longtemps et ce monsieur qui veut continuer de travailler on lui dit non stop. Alors qu'aujourd'hui on dit il faudrait travailler plus longtemps ainsi de suite. Donc on est aussi dans cette contradiction là très forte. On a complètement mis de côté le fait de, par exemple, de penser en termes de retraite progressive. Pourquoi je commencerais pas à faire que 3 semaines sur 4, puis 2 semaines sur 4, et ainsi de suite? Pourquoi on fait pas ça progressivement? Pourquoi il y a un coup près? Et puis Dominique, il a une chance extraordinaire. Il est infirmier. On en cherche tous les jours. Moi, je dirige un master directeur des établissements de santé. Je vois bien que des infirmiers, ils ont du boulot tout le temps. C'est-à-dire qu'il peut aussi, alors, comme travail ou comme, justement, bénévolat, il peut très largement continuer à œuvrer dans ce qu'il aime. Donc, il y a aussi cet élément-là. Puis peut-être, à un moment donné, de s'écouter, de se dire, bon, qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui compte pas? Comment je construis les choses? Et de s'accorder le droit d'avoir un petit coup de déprime, en effet. Je crois qu'il a le droit à ça et on a le droit de l'écouter par rapport à cela.
Bon, j'espère que Dominique aura reçu tous ces conseils précieux. Bernard nous appelle de Lille. Bonsoir Bernard, soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir. Je vous en parlais de retraite heureuse, encore faudrait-il pouvoir la prendre de son vivant. Parce que d'année en année, on s'aperçoit que on nous recule l'âge de départ à la retraite, ou alors on nous ajoute des annuités, et financièrement, ça empêche les gens de partir. Et depuis tout à l'heure, j'entends parler de bénévolat, mais avec le chômage qu'on a, il serait peut-être temps de former les gens et de profiter justement des gens qui vont partir à la retraite dans quelques années, pour qu'ils puissent prendre aussi en charge, en temps de travail, cette formation et faire bénéficier de leur expérience, mais dans un contexte de travail, pas dans un contexte de bénévolat.
Vous n'êtes pas encore à la retraite, Bernard ?
Ben, figurez-vous que moi j'avais signé un accord avec l'État. Je fais partie des enseignants qui devaient partir à 55 ans. J'avais un engagement décennal que j'ai respecté. En échange de quoi, en fin de carrière, l'État s'était engagé à me laisser partir à 55 ans. J'en ai 59 et je suis toujours au travail.
Merci de ce témoignage, Bernard. Carole Renucci, qu'en dites-vous ?
Bah écoutez, je ne sais pas, j'espérais que vous alliez poser la question à Serge Guérin. Serge,
alors,
peut-être.
Serge Guérin, comment vous recevez ce que nous dit Bernard? C'est important, effectivement, d'être lui, donc 55 ans, et il en a fait 59 et il voulait partir à 55.
Alors, on peut, d'abord, il y a une problématique d'espérance de vie qui s'allonge, et une problématique du fait qu'on a passer le droit à la retraite de 65 à 60 ans et que depuis 1988 on essaie de remonter parce que démographiquement ça tient pas. C'est aussi tout simplement le nombre de personnes qui sont en activité par rapport au nombre de personnes qui sont à la retraite, et les uns cotisent pour les autres ayant cotisé auparavant, et donc il y a plus de monde qui sont à la retraite pour une durée plus longue. Donc il y a une logique assez simple de se dire il faut que les gens puissent continuer à travailler pour pouvoir cotiser, pour peser moins sur les retraites. Encore faut-il qu'on ne licencie pas les seniors. Dans les 5 dernières années, il y a eu 50% d'augmentation du taux de chômage des seniors. Donc il y a aussi un enjeu là tout bête, c'est que c'est bien, et je crois qu'il y a une vraie logique à ce que les gens puissent travailler plus longtemps, dans des bonnes conditions évidemment, et entre autres pour aider d'autres, pour former d'autres, pour contribuer à l'intégration.
C'est important ce que disait effectivement
jeunes,
Bernard sur la formation aussi, la transmission.
Oui, quand on peut. Alors, tous les métiers, on ne peut pas les transmettre. Parfois, ce sont des technologies nouvelles, ainsi de suite. Mais il y a un certain nombre de gens qui sont évidemment en capacité d'accompagner d'autres. Et d'ailleurs, les jeunes, très souvent, le demandent. Ils arrivent dans une entreprise, ils ont besoin de savoir comment ça se passe. Hein. Donc, ça, on peut le faire. Mais simplement, il faut à la fois valoriser les personnes et leur dire aussi, on a besoin de vous. Mais en même temps, je crois que la logique, c'est aussi qu'on puisse travailler plus longtemps. Parce que simplement, sinon, l'équilibre du système par répartition ne tiendra pas. Mais on peut, encore une fois, y penser de manière des retraites progressives, dans des situations différentes. On peut aussi permettre à des personnes à des âges relativement avancés d'imaginer d'autres formes de carrière. On a le droit aussi de se former jusqu'au dernier jour. Chez nous, après 45 ans, on ne forme plus les gens. Vous êtes ne pas s'étonner qu'ensuite, ces personnes apparaissent comme décalées. Si ça fait 20 ans qu'on ne vous a pas formé, il y a peu de chances qu'à 65 ans, vous soyez au top. Un pays comme la Suède, ça fait 20 ans qu'on considère normal qu'à tous les âges, les gens soient formés. Bah, le résultat, c'est que les gens sont plus en activité, sont en meilleure forme dans leur entreprise et se sentent aussi plus valorisés.
Énormément de témoignages sur franceinter.fr ou même sur Twitter d'auditeurs qui nous disent leur colère. Je vous en donne quelques-uns. Par exemple, Marianne nous dit « Même quand on a su prévoir une épargne retraite, il y a de plus en plus de prélèvements de taxes et d'impôts. Demain, à 88 ans, si je dois aller dans un établissement spécialisé, je n'en aurai plus les moyens. Un auditeur qui nous dit « Je suis très en colère, j'ai 58 ans, bientôt à la retraite j'espère. » Je suis locataire de mon appartement, petit salaire toute ma vie, genre 1 600 €. Je ne me plains pas, mais ma mère a 82 ans, elle est atteinte d'Alzheimer et je dois participer à hauteur de 800 € à son loyer en EHPAD. Financièrement, ça devient intenable. Et là, comme ça, il y en a des dizaines de témoignages qui arrivent, je vous dis, soit sur Internet, soit au standard. Hervé Sauzet, comment vous recevez tout ça?
Ça m'étonne pas du tout. C'est vrai que le reste à charge, comme on dit techniquement, pour les, c'est-à-dire ce que les familles doivent continuer à financer pour la dépendance de leurs parents, une fois déduites toutes les subventions qu'on peut recevoir, c'est 1 200 € par mois. Donc les 800 là, c'est-à-dire c'est même peu par rapport à la moyenne. Et ça c'est un vrai sujet. Ça c'est vraiment une, c'est à la fois une douleur
affective. Parce que là on affective. Ne vit plus, on survit. Hein, ouais.
Voilà, une douleur affective et une douleur et en même temps une difficulté financière. C'est une des raisons pour lesquelles le cumul emploi-retraite est en train d'exploser. Il y a aujourd'hui 450 000 personnes qui travaillent après la retraite. Ils étaient à peu près moitié moins il y a 5 ans. Et quand on a fait une étude là-dessus, quand on regarde en détail quelles sont les raisons, il y en a une qui est de faire une transition douce, hein, une retraite progressive dont parlait, une façon de faire une retraite progressive dont parlait Serge tout à l'heure. Mais l'autre raison, c'est je dois financer. Mauvaise surprise à la retraite, hein. Je dois financer la dépendance de mes parents et ça va m'aider à le faire. C'est la grande différence avec les générations précédentes. C'est que dans les générations précédentes, quand on arrivait à la retraite, on avait ses parents à charge pas très longtemps. On était triste, bien sûr, mais on n'avait pas cette charge-là financière. Aujourd'hui, avec le gain d'espérance de vie de 3 mois par an, on a ses parents le plus souvent à charge et c'est tout le sujet.
Carole Renucci.
On est effectivement devant quelque chose qui est inédit. La plupart des personnes, lorsqu'elles passent à la retraite, ont encore leurs parents. Et effectivement, avec des parents qui sont en perte d'autonomie. Donc, une partie de leur activité, puisqu'on parlait de retraite heureuse, hein, il faut le savoir, ça va être dédié, je dirais, à s'occuper de leurs parents. Donc, c'est un vrai sujet qu'on n'a pas, là aussi, qu'on n'a pas vraiment anticipé, dont on a peu parlé. Alors, effectivement, les personnes qui ont acquis leur logement, qui ont une petite retraite, mais arrivent, j'irai, à joindre les deux bouts, dès lors qu'il vient s'ajouter une aide à la famille, au sens large, parce que ça peut être aussi du côté des enfants, ça devient très, très compliqué, et ils sont nombreux dans ce cas-là.
Pierre nous appelle du Perche. Bonsoir, Pierre, nous vous écoutons.
Oui, bonsoir. Oui, voilà, moi, j'ai 68 ans, et je suis à la retraite depuis... 4 ans, donc à 64 ans j'ai eu ma retraite, et je dois dire que toute ma vie j'ai eu un métier qui m'a passionné, puisque je suis prothésiste orthodontiste exclusivement, et que je continue à travailler parce que j'y trouve vraiment un équilibre. Bon, je travaille à mon rythme que maintenant, parce que je travaille plus autant, je suis à mon compte bien sûr, et sincèrement c'est formidable, parce que je me sens très très bien comme ça. Donc bon, financièrement c'est vrai, c'est aussi un petit avantage, ça donne plus de revenus. Bon, ça m'empêche pas de faire du sport, beaucoup de sport, je fais de la musique parce que je suis passionné de musique, donc ça me permet de m'acheter aussi beaucoup de choses. Bon, ça c'est une... Mais c'est surtout avant tout, je veux dire, un équilibre. Parce que ce métier m'a toujours intéressé. Bon, c'est un contact aussi avec les clients qui sont maintenant des vieux clients, mais c'est formidable, il y a les fournisseurs, c'est un lien social, hein, quand même, et je ne vois mal à arrêter, parce que là, franchement, je crois pas que... Voilà.
Mais vous travaillez tous les jours, Pierre ?
Oui, pratiquement, mais enfin à mon rythme. C'est-à-dire que le matin, par exemple, je viens assez tard. Je travaille l'après-midi beaucoup. Je vais voir mes clients. J'ai des fournisseurs qui viennent. Enfin, c'est vrai que c'est un équilibre. Hein. Sincèrement, je me vois et je suis en pleine forme comme ça.
Mais est-ce que vous considérez comme étant retraité du coup ?
Pardon ?
Vous vous considérez comme un retraité ou pas du tout, finalement ?
Non, pas du tout, non, justement, non. Je vois pas vraiment le... Non. Quand on me dit, mais t'es à la retraite, je dis, je sais pas, non, je vois pas trop, quoi.
Et vous voulez continuer comme ça jusqu'à quel âge ? Vous avez une idée ?
Il n'y a pas de date. Je fais 2 fois par semaine 8 km de footing. Je fais du vélo, je chante, je joue de la guitare, je vais en groupe quelquefois jouer avec des copains. Enfin, c'est tout un ensemble de choses. Et j'aime bien parce que financièrement, ça me donne aussi la possibilité, je le dis franchement, d'aider certaines personnes quelquefois qui sont dans des difficultés bien supérieures à moi, et ça me permet de leur faire plaisir aussi. Ça, c'est une chose que j'aime bien, parce que voilà, une aisance financière qui me permet aussi de regarder les autres, de m'intéresser aux gens et d'aider éventuellement si je peux le faire. Parce que je vous dis franchement, bon, maintenant je suis célibataire, je suis divorcé depuis de nombreuses années, donc je fais partie, j'estime, des privilégiés, et voilà, donc ça me permet de faire beaucoup de choses.
Merci beaucoup de ce témoignage heureux, visiblement, Pierre. Avant de faire réagir nos trois invités, j'aimerais donner la parole à Marie-Thérèse. Bonsoir, Marie-Thérèse.
Oui, bonsoir. Écoutez, j'ai l'impression de voir que je vais donner aussi un témoignage plutôt heureux également, puisque j'ai 67 ans, j'ai été infirmière comme un auditeur précédent aussi, infirmière en hôpital public pendant 25 ans, et j'étais à temps plein, et j'ai décidé de faire du domicile, mais en remplacement. Donc, j'avais pas charge de cabinet, mais pendant mon temps professionnel, j'ai toujours été engagée à la municipalité dans ma commune. Enfin, j'étais quelques mandats, j'ai fait 3 mandats. Et puis, quand j'ai décidé d'arrêter à la dernière mandature, je me suis engagée dans une autre association, accueil de migrants, de SDF. Si bien que j'ai pas du tout senti de rupture, et je vis seule parce que mon mari est décédé, ça fait 6 ans et demi. Et je vis seule depuis ce temps-là. Je me suis arrêtée à 60 ans exactement. Et voilà, j'ai pas senti de rupture et j'ai l'impression de vivre quelque chose d'assez heureux et d'harmonieux.
Mais on vous sent heureuse, ça s'entend.
Mais je crois l'être et je fais aussi des choses pour moi. Je fais de la randonnée, je vais à la piscine. Enfin voilà, je fais des choses pour moi. Mais socialement, je me suis jamais sentie isolée. Je me suis pas sentie isolée.
C'était ça le plus important à vos yeux ?
Ah oui, je trouve que c'est effectivement très important, mais je pense qu'il faut aussi que chaque personne, alors suivant les possibilités, hein, moi je porte pas de jugement, mais il faut aussi que nous-mêmes on fasse ce pas, parce que c'est très facile de se renfermer. En plus, quand on est seul, ça peut être très facile de se renfermer. Je crois qu'il faut savoir aussi s'ouvrir. Bon, j'ai la chance aussi de financièrement pouvoir m'en sortir pas trop mal. Donc voilà, hein, j'ai entendu tous les témoignages douloureux avant, effectivement, hein. Voilà, je veux dire aussi que chacun, il faut qu'on fasse des pas, il faut pas s'enfermer, il faut pas penser qu'à sa petite personne. Bien sûr, on va vers des moments sûrement plus difficiles pour nous, hein, pour notre santé, mais bon, voilà, vivons le temps présent.
Merci de ce message, ce beau message, Marie-Thérèse après Pierre, deux témoignages heureux, enfin tous les deux sont en bonne santé, physique et financière.
Oui, absolument. Et puis Marie-Thérèse, comme son nom l'indique, est une femme, donc c'est le premier témoignage féminin finalement de cette émission. Elle nous dit qu'elle est seule, alors très souvent les femmes seules ont dû se prendre en main, ont dû conquérir ou acquérir une certaine autonomie. Il est vrai qu'au moment du passage à la retraite, c'est pas forcément exactement son histoire, mais en tout cas ces personnes-là sont souvent très actives et très impliquées dans la vie sociale. Ça c'est un point qui est assez récurrent. Il est vrai aussi que les hommes ont tendance, alors ce sont d'éminents psychologues qui le disent, mais Serge Guérin l'a dit tout à l'heure aussi, ont un peu tendance à se replier sur eux. Ils rentrent à la maison et ils voudrait bien que madame se mette au fourneau et il rentre dans une espèce de rituel très classique, très tradition, dont les femmes évidemment se plaignent beaucoup, mais il est vrai qu'ils ont...
Là aussi, c'est quand même des critères qui évoluent.
Oui, mais il y a quand même, surtout quand les hommes ont été particulièrement accaparés, quand ils reviennent à la maison pendant un temps, bien entendu, ça ne dure pas trop longtemps, on l'espère en tout cas pour eux, ils ont quand même un peu tendance à se replier, et pour elles aussi, mais je crois qu'elles se rebiffent pas mal, à se replier, et c'est souvent d'ailleurs la femme qui les pousse dehors, qu'il les reconnecte finalement avec l'extérieur. Et puis je voudrais dire une troisième chose, c'est que, attention, on l'a pas trop entendu ce soir, mais attention à ne pas opposer les gens. C'est-à-dire que là, on a eu deux exemples de personnes qui ont eu la possibilité de poursuivre leur activité professionnelle. Et finalement, c'est l'idéal. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la retraite progressive, que certaines entreprises, dont celle à laquelle j'appartiens, tentent de mettre en place en ce moment. Et qui finalement est un système tel que les deux personnes l'ont indiqué, qui met vraiment, je dirais, le pied à l'étrier de façon progressive, en douceur. Et c'est vrai que c'est l'idéal. Quand on peut le faire, c'est formidable. Mais j'imagine bien que beaucoup d'auditeurs ont dû se dire, bah, pour moi, si j'avais su, si j'avais pu, etc., ce serait très différent. Alors, je crois qu'on a un système qui fonctionne pas mal, qui nécessite des améliorations, des évolutions, mais tout ça ne pourra se faire que si nous ne nous opposons pas les uns aux autres.
Serge Guérin.
Alors, je crois plusieurs choses. La première, 17 millions de retraités, il y a plein de manières de vivre sa retraite. La retraite, c'est pas un statut. Voilà, ok, je suis comme ça, mais qu'est-ce que j'en fais ? Deuxième élément, souvent, c'est très lié à nos vies. Il y a des gens qui se sont jamais intéressés à autre chose qu'à eux-mêmes. C'est pas le jour de la retraite que d'un seul coup, ils vont devenir des bénévoles extraordinaires. Les femmes, de ce point de vue-là, sont aidées parce que la vie a fait qu'elles les obligent d'une certaine manière à faire plusieurs choses à la fois. C'est un peu les couteaux suisses sociaux. Donc, du coup, à la retraite, ils sont plus habitués.
Je sais pas si vont aimer l'image des couteaux suisses sociaux.
Elles sont obligées de faire plein de choses parce Bon, voilà. Donc du coup, elles sont moins aussi enfermées juste dans un rôle. Et c'est vrai que les hommes parfois sont plus passifs par rapport à ça. Je vous donne juste une anecdote dans une série d'entretiens que j'avais fait. Une dame m'avait dit, mais moi, je me suis mariée pour le meilleur et pour le pire avec mon mari, mais on n'avait pas prévenu que c'était aussi pour passer tous les déjeuners avec lui. Donc c'est aussi d'un seul coup à la retraite, on se retrouve face à face. Et moi, j'avais ma vie et j'ai envie de continuer d'avoir ma vie.
Et ça peut être très difficile.
Et ça peut être très difficile. C'est pas pour rien que en 10 ans, le taux de divorce post-retraite a augmenté de 41%. C'est aussi parce que les gens, à un moment donné, alors qu'ils sont en forme et qu'ils ont 30 ans devant eux, voilà, ils peuvent se dire, tiens, je vais faire autre chose. D'ailleurs, le en forme est important. 93% des retraités sont en forme. Donc la question de la maladie, elle existe. Mais elle
c'est
est
la première crainte, c'est ce qu'on disait au début de l'émission.
Mais il faut rappeler que, heureusement, la majorité sont en bonne forme. Et donc on profite aussi de cette forme physique. Et puis, mais encore une fois, c'est vraiment la question de la personnalité, la question de est-ce que j'ai été ouvert au monde ? Est-ce que on m'a aidé ? Est-ce que j'ai été formé pour cela ? Est-ce que j'ai eu un environnement pour cela ? Et du coup, on construit sa retraite un peu aussi sur la couleur dont on a construit sa vie auparavant.
J'aimerais qu'on reparte une dernière fois au standard où nous attend Juan. Bonsoir Juan.
Oui, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir.
Merci à vous. On vous écoute.
Oui, moi, je voulais simplement intervenir pour revenir, enfin, sur un point que j'ai... Pour arriver plutôt sur un point que j'avais pas vraiment entendu et évoqué jusqu'à maintenant, c'était le plaisir immense que l'on pouvait souffrir lorsqu'on ne travaillait plus, de ne rien faire, tout simplement. Sans avoir cette impression un petit peu coupable, car quelque part, de voler du temps, soit à son entreprise, soit à quelconque environnement, mais de se croyer ces quelques heures. Alors, pas forcément, moi je suis pas en train de prêcher pour une vie à la Alexandre le Bienheureux, pas forcément. Mais il y a cette notion que je n'ai pas entendu évoquer jusqu'à maintenant. J'entendais des témoignages d'un infirmier, Dominique, je crois, qui semblait très... très triste et très affecté du fait de ne plus pouvoir s'impliquer de manière professionnelle. En ce qui me concerne, quel bonheur ce fut de quitter des gens qui n'étaient pas forcément des amis, puisque je ne les avais pas forcément choisis de mon plein gré, bien qu'ayant eu une carrière professionnelle plutôt agréable. Mais enfin voilà, c'est ces petites choses qu'on peut enfin s'offrir quand on a le luxe d'avoir du temps. Je sais pas, il m'est arrivé souvent, on me demandait, ouais, mais la retraite, tu fais quoi ? C'est pas très compliqué, en fin de compte. C'est un week-end qui, au lieu de durer 2 jours, dure 7.
Oh, et ça pense... donne envie quand même.
Non, mais sincèrement, je ne pense pas que les gens... Enfin, moi, je connais personne qui s'ennuie le week-end. Enfin, du moins autour de moi.
Il peut y en avoir, mais...
Oui, ça doit exister. Bon, enfin, moi,
mais merci de ce message, Juan. Effectivement, il fallait l'entendre. Le bonheur de s'offrir des moments pour ne rien faire. Carole Renucci, vous êtes la seule femme du plateau, à vous l'honneur de conclure.
Alors, je pourrais dire que tant mieux pour Juan s'il le vit bien, finalement, voilà. Mais c'est vrai que je pense vraiment que ce n'est pas la majorité. On dit souvent que les jeunes retraités, notamment, je pense aux baby-boomers, sont des hédonistes qui passent leur temps en croisière et je ne sais où. Dans la réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Ils ont vraiment à se départir d'un toutes sortes de tâches qu'on a évoquées, hein, familiales notamment, et il est vrai que c'est pas si simple que ça, je le redis, même si ça doit être heureux avant tout.
Et au message de Juan, j'ajouterai celui de Dominique qui nous dit, en Espagne, retraité se dit jubilador, celui qui profite de la vie. Le mot est beaucoup plus agréable. Merci à tous les trois. Carole Renucci, directrice des rédactions du magazine Notre Temps, Hervé Sauzet, directeur de l'Institut français des seniors, organisateur du salon éponyme, et Serge Guérin, sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement. Merci beaucoup à tous les trois. Dans moins d'une minute, un nouveau journal.